Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées.
Le moulin à parole.
Bonjour Salomé.
Bonjour Arwan.
Comment vas-tu?
Ça va super. Bah, même en
génial.
Ce vendredi, ma foi, très pluvieux.
Ouais, c'est vrai que c'est assez pluvieux. Il est 15h sur Radio Campus. On est, pas très coutumier qu'on lance un moulin à parole en direct des studios de Radio Campus. Mais aujourd'hui, on avait envie de prendre la parole rapidement dans les studios
tout
pour pouvoir
fait.
Vous annoncer l'émission qu'on va écouter aujourd'hui dans le moulin à parole, qui est l'émission restitution de ce qu'on a pu produire le 31 mars dernier au Bouillon. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas, Salomé?
Eh bien, au Bouillon, nous avons donc organisé une conférence radiodiffusée, qui a été du coup enregistrée en différé, où on accueillait du coup l'autrice Olivia Gazalé, qui a fait le livre Le mythe de la virilité. Et donc, c'était toujours dans le cadre du coup du mois de l'égalité, lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Voilà, donc une conférence radiodiffusée qu'on avait réalisée en direct là-bas. On avait également Monique Lemoine, qui est la présidente du planning familial 45 et de Mixité 45. On était également en compagnie de Jonathan Bruno de l'UNEF et en charge de la formation des élus au sein du conseil d'administration de l'Université d'Orléans, de Sacha Leclerc, vice-présidente de la Fédération Au Campus, de Claire Lallemand, étudiante en L3 biologie et fondatrice de l'association Femmes 45. Donc c'est une émission que toi, Salomé, tu as eu l'occasion de co-animer avec donc Daniel. Daniel, que vous retrouvez habituellement sur ce créneau du Moulin à Parole 15h. Donc, on ne change pas cette coutume-là. Par contre, c'est bien Daniel que vous entendrez. Et également Laurence Lacroix. Laurence, que vous connaissez, chères auditrices et auditeurs, ou on peut dire auditeurices, si on parle en langage égalitaire, que vous pouvez retrouver, donc Laurence Lacroix, dans l'émission Parlons Philo. Donc, c'est une émission qu'on vous propose d'écouter sur Radio Campus. C'est ce qu'on avait réalisé le 31 mars. À retrouver sur notre site internet orleans.radiocampus.org. Et c'était la deuxième conférence, puisque la première, on l'avait également organisée au Bouillon. C'était le 8 mars dernier. On vous souhaite une bonne écoute et une belle après-midi sur Radio Campus.
Bon après-midi.
Afin de rappeler que les femmes sont toujours victimes de violences sexistes et sexuelles, que l'égalité des sexes et des genres n'est toujours pas atteinte,
Radio Campus Orléans organise en mars son mois de l'égalité des sexes et des genres.
Midi 14h, le 31 mars au Bouillon,
lutter contre les discriminations sexistes.
Plus d'infos et programmation complète sur notre site
orleans.radiocampus.org.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre station préférée, Radio Campus 88.3, également disponible à l'écoute sur internet à l'adresse www.radiocampusorléans.org. Aujourd'hui, nous avons posé notre studio mobile dans le Bouillon, un espace culturel de l'université qui se trouve juste à côté de la radio, pour cette deuxième partie donc, de l'émission. Souvenez-vous, la première était consacrée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur comment lutter contre les discriminations sexistes avec plusieurs invités qui sont présents avec moi aujourd'hui sur le plateau. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Olivia Gazalé, philosophe, essayiste, maître de conférences, autrice de l'ouvrage Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, sorti chez Lafon en 2017
et en Pocket après en 2019.
En 2017, voilà, donc il y a plus de 5 ans. Nous avons également le plaisir d'accueillir Monique Lemoine, donc présidente du planning familial.
Oui, bonjour à toutes et à tous, contente d'être avec vous. Oui, je suis la présidente du planning familial Loiret et la présidente de Mixité, qui est une association féministe mixte.
Qui met en place un colloque qui aura lieu en septembre, nous en reparlerons un peu plus tard, les Femmes de Lumière et de l'Ombre.
Femmes de Lumière et de l'Ombre, oui, c'est un colloque qui existe depuis 2011 et qui va entamer sa 12e année cette année, avec un thème qui est les femmes et leur corps.
Nous avons également le plaisir d'accueillir une voix fidèle pour les auditeurs auditrices de Radio Campus. Je veux parler de Laurence Lacroix, donc animatrice de Parlons Philo.
Oui, bonjour Daniel.
Voilà, qui nous quittera à 13h, hein, parce qu'il faut que tu retournes auprès de tes élèves à l'école.
Exactement.
Nous avons également le plaisir d'accueillir Jonathan Bruneau. Il est chargé de la formation des élus et il est élu au conseil d'administration de l'université en tant que militant de l'UNEF, c'est bien ça ?
C'est ça, bonjour à toutes et à tous.
Et à côté de lui, il y a Sacha Leclerc, vice-présidente de l'association Au Campus.
Bonjour à toutes et à tous.
Et cette émission sera co-animée donc avec Laurence, qui nous apportera son regard de philosophe, et également Salomé Glédel, voilà, que vous connaissez également sur Radio Campus 88.3. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous communiquer quelques chiffres, voilà, issus du baromètre de l'égalité homme-femme qui est sorti le 7 mars dernier par le Haut Conseil de l'égalité homme-femme. Un baromètre qui révèle à quel point il faut encore faire preuve de pédagogie pour lutter contre le sexisme et amplifier les politiques destinées à le faire régresser et le sanctionner. Précise Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, parce que les femmes sont les grandes perdantes économiques d'un monde post-crise. Les femmes restent des intruses dans les sphères de pouvoir, de savoir et de parole. Le baromètre sexisme nous apprend que seulement 6% des Français considèrent que le sexisme est présenté correctement dans le débat public. Enfin, les représentations dans le cadre éducatif montrent un clair manque d'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge. Si les jeunes générations sont sensibles aux stéréotypes et discriminations, la persistance d'une culture du viol et le décalage avec certaines notions fondamentales, pardon, du sexisme sont à déplorer. L'éducation à l'égalité doit être une priorité pour non seulement lutter contre le sexisme dès le plus jeune âge, mais encore le prévenir tout au long de la vie. Ça m'a laissé le temps de perdre mon conducteur, je viens de le retrouver. Madame Gazelle, donc vous avez sorti cet ouvrage, Le mythe de la virilité, avec un sous-titre, Un piège pour les deux sexes, en 2017. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne l'ai pas décidé au départ, en fait. J'étais partie sur une réflexion sur le féminisme. Et j'étais très loin d'arriver sur la virilité, en réalité. Mon point de départ, c'était que je voulais comprendre pourquoi on en était encore là. Quand j'ai commencé à travailler, on devait être en 2012 à peu près. C'est-à-dire, pourquoi, comment expliquer que le féminisme, qui avait gagné la bataille idéologique, en était encore là, c'est-à-dire pourquoi il y avait encore autant de discrimination, pourquoi il y avait encore autant de violences sexistes et sexuelles, d'injustices, etc. Et en réfléchissant sur la question féministe et en tirant des fils, j'ai tout à coup compris, ça a été comme une espèce d'illumination, que le problème ne venait pas seulement de la perpétuation des stéréotypes sexués sur le féminin, c'est-à-dire la définition de la femme, mais également de quelque chose qui était beaucoup plus impensé, qui était la perpétuation des stéréotypes sexués sur le masculin. Et tout à coup, j'ai compris, en réfléchissant sur cette question, que les hommes aussi, finalement, étaient pris au piège de cette sexuation du monde telle qu'on nous l'a présentée depuis, grosso modo, depuis l'Antiquité. Voilà, donc ce qui m'a mise en chemin, c'était une réflexion sur les femmes, et je suis arrivée à une réflexion sur les hommes, et tout à coup, j'ai compris que la virilité était à la fois, enfin, c'était Pierre Bourdieu qui avait cette expression très juste, la virilité est à la fois un privilège et un piège. Donc les hommes aussi sont enfermés dans cette logique patriarcale. C'est ce que j'ai voulu démontrer dans ce livre. Il n'y a pas que les femmes qui sont perdantes dans le sexisme. Les hommes aussi ont beaucoup à y perdre.
Quel a été le processus philosophique pour le concevoir ? Alors j'imagine que vous avez été, là vous nous avez cité Pierre Bourdieu, vous nous avez parlé de l'histoire du féminisme, vous êtes allé piocher. Où êtes-vous allé piocher toutes vos sources d'inspiration ?
Alors c'est très vaste parce que j'ai mis 4 ans à réunir les éléments qu'il me fallait. Une de mes grandes sources d'inspiration, ça a été la monumentale histoire de la virilité de Vigarello, Courtine et Corbin, donc de trois grands historiens, qui a été, si vous voulez, la base dans laquelle j'ai pu puiser. Et puis ensuite, après, je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai lu, mais en gros, il a fallu que je... j'ai lu la théorie féministe, les anthropologues, les sociologues, les économistes. Parce que ce qu'il y a de merveilleux avec la philosophie, justement, c'est qu'elle n'a aucune barrière, elle est transdisciplinaire. Donc, on a une liberté folle, en fait, pour se sourcer. Donc, moi, j'ai utilisé toutes les sources qui me semblaient probantes. Et d'ailleurs, entre-temps, depuis la rédaction de ce bouquin, j'aurais pu encore l'alimenter. Et c'est sans fin, en réalité.
Bien sûr.
Voilà.
Monique Lemoine.
Oui, Olivia, je suppose que vous êtes plongée également chez Françoise Héritier.
Bien entendu.
Parce que c'est quand même une de nos grandes figures.
Bien entendu.
Qui parle de la valence différentielle des sexes. Et quand je l'ai lu, j'avais un petit peu de mal à comprendre. Mais quand on se penche dessus, cette valence différentielle des sexes, elle dit tout. Elle nous dit tout.
Absolument, parce que Françoise Héritier a été une de mes grandes sources d'inspiration, parce que c'est avec elle qu'on comprend vraiment que la binarité homme-femme relève d'une binarité plus globale, c'est-à-dire qu'il y a une supériorité, un postulat de la supériorité du masculin, du principe masculin sur le principe féminin, et que ça gouverne tout. Et qu'on retrouve cette hiérarchisation en fait du masculin sur le féminin un peu partout. Donc évidemment dans les rapports hommes-femmes, elle nous explique que tout ce qu'on a accordé au masculin, on en a privé le féminin. C'est-à-dire que quand on dit qu'un homme est courageux, c'est pour dire qu'une femme est peureuse. Quand on dit qu'un homme est rationnel, c'est pour dire qu'une femme est émotive et irrationnelle. Et on peut, elle multiplie les exemples à l'infini, extérieur, intérieur, privé, public, conquête, soumission,
chaud, froid,
humide, sec, toutes ces binarités en réalité sont sexuées et hiérarchisées, parce que c'est ça qu'elles montrent. Et c'est ça c'est bien que vous me parliez de Françoise Héritier, parce que en fait ce qu'elle permet de comprendre, c'est la différence entre la question de la différence des sexes, qui est une question immense, la question de la différence des sexes. En fait, pour y répondre, il faut à la fois des biologistes, des scientifiques, des philosophes, et on ne sera jamais d'accord, parce que déjà aussi les religions ne disent pas la même chose que les scientifiques, enfin ça c'est un long débat. En revanche, la question de la hiérarchie, elle, c'est une question politique dont on peut s'emparer, et avec des effets vérifiables et attestés dans la vie sociale.
Dans le même genre, il y a Germaine Tillion.
Absolument.
Qui, elle aussi, nous instruit beaucoup. Donc, pour tous les jeunes, filles et garçons qui écoutent, si vous avez des ouvrages avec celui d'Olivia, certainement, mais allez piocher dans Françoise Héritier et Germaine Tillion, qui sont deux femmes formidables, malheureusement disparues, mais qui ont vraiment su nous expliquer ce que c'était que cette différence des sexes. Et voyez, elles, à leur époque, elles n'ont pas encore travaillé sur le genre, mais de leurs études et de leurs analyses découle de cette notion de genre qui, pour nous, en France, est un petit peu nouvelle, parce que ça nous vient des États-Unis, ça vient de Gender, de Judith Butler. Et c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour nous, au début, de comprendre la différence entre sexe et genre. D'ailleurs, maintenant, c'est un petit peu utilisé, je dirais, à tort et à travers. On ne sait plus si on parle de sexe ou de genre. Mais le genre, ce sont les relations dans la société entre les femmes et les hommes, quel que soit, je dirais, leur sexe biologique. Voilà, donc...
Le genre social.
C'est ça.
Le rôle de genre, même, comme on dit.
C'est la façon dont on va être obligé de se comporter dans la société. Ou alors, on s'émancipe, parce que c'est quand même... Il est temps, hein, les jeunes, là, de s'émanciper. On est quand même en 2022, donc il faut arrêter de rester sous la coupe et la dictature de ces stéréotypes dont vous devez parler énormément, Olivia, dans votre livre. C'est ça qui perturbe tout. Et c'est ça qui fait que notre monde ne marche pas sur ses deux pieds. Pieds homme, pied femme. Mais après, quand on est un homme, qu'est-ce qui vous empêche de porter les cheveux longs? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des bagues partout? Et quand vous êtes une femme, qu'est-ce qui vous empêche d'être autoritaire si vous en avez envie et de faire le métier qui vous convient à cause de vos, grâce à vos compétences? Il ne faut pas rester sous ces stéréotypes-là. Et moi, je les combats depuis un certain nombre d'années. Et vous voyez en face de vous une femme en colère. Une femme en colère parce que c'est inadmissible qu'on entrave encore aujourd'hui les jeunes, notamment quand une jeune fille dit qu'elle veut faire ceci ou cela et que ses parents, peut-être, vont commencer par lui dire non. Tu ne vas pas pouvoir mener ta vie de femme, de mère. Et ça, vous en parlez certainement beaucoup.
Bien sûr,
Olivier.
Bien sûr.
C'est pareil pour un garçon qui va dire qu'il veut être, s'occuper d'enfants, ou qu'il veut être infirmier, ou qu'il veut être assistant maternel. Oh ben non, quand même. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les femmes. Et si le garçon, il a envie de faire ça, eh ben voilà.
Oui, c'est ça. Vous avez raison de souligner le fait que ces constructions de genre sont en réalité presque des amputations psychiques. En tout cas, ça représente vraiment des limitations pour chacun et chacune dans ses orientations, dans ses choix, dans ses goûts. Judith Butler, que vous avez citée tout à l'heure, elle parle d'une performance de genre, c'est-à-dire qu'on doit jouer à la femme et on doit jouer à l'homme. Et donc, en réalité, ces injonctions, elles sont tout aussi pesantes pour les femmes que pour les garçons. C'est-à-dire que pour nous, les femmes, ça a représenté historiquement une grande limitation parce qu'on nous a assigné à la maternité, à la sphère domestique, à la bienveillance, l'empathie, la gentillesse, tous ces métiers dits du care aujourd'hui qui sont problématiques, on pourra y revenir. Mais les hommes, eux aussi, sont limités et amputés parce qu'un homme, on lui apprend dès le berceau qu'un homme, un vrai, ça doit arborer très fièrement les marqueurs de la virilité triomphale, c'est-à-dire ça doit être puissant, tout puissant, ça doit être dominant, ça doit maîtriser, ça ne doit pas montrer ses émotions. Un garçon, boys don't cry, les garçons, ça ne pleure pas. Et en réalité, ce sont des amputations psychiques et ça représente à la fois pour les garçons quelque chose de très coercitif parce que intérioriser ces injonctions virilistes, c'est une violence. Ça s'accompagne souvent d'une grande violence dans l'éducation parce que historiquement, il ne faut pas oublier qu'on voulait former des guerriers et qu'on a dit aux garçons, tu n'as pas peur, tu n'as pas mal, tu as envie de mourir sur le champ de bataille parce qu'on voulait des guerriers. Donc c'est déjà une coercition, mais c'est aussi, ce sont des idéaux très discriminatoires parce qu'en réalité, on se rend compte que tous les garçons, tous les hommes qui ne présentent pas fièrement les attributs de la virilité triomphale ne sont pas considérés comme de vrais hommes. Et en fait, c'est ça le sujet principal de mon livre, c'est de montrer qu'en réalité, ça ne veut rien dire un vrai homme. Il y a des hommes, il y a des femmes, et la vérité de l'humanité, c'est la diversité. Et il y a autant de diversité à l'intérieur du genre qu'il y en a entre les deux genres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être beaucoup plus proche. Moi, je suis beaucoup plus proche sous bien des aspects de monsieur que d'une autre femme. Donc, ça n'a pas vraiment de sens à ces catégories. Elles sont largement obsolètes et elles sont surtout des emprisonnements. Donc, les hommes aussi ont intérêt à s'émanciper de ces schémas. On parle beaucoup de l'émancipation de la femme. Mais nous, ça fait déjà presque, si on remonte jusqu'aux précieuses, ça fait déjà presque 300 ans, en tout cas, qu'on a questionné ces stéréotypes de genre et qu'on s'est dit, bah non, si une femme veut faire un métier d'homme, elle peut. Maintenant, il y a des femmes qui font l'armée, il y a des femmes qui font de la boxe, du foot, etc. Mais les hommes, eux, ils restent très arc-boutés et sur leur privilège masculin et sur leur supériorité et sur leur définition du masculin. Et ils en sont aussi les victimes.
Oui, c'est très important, Olivia, ce que vous venez de dire. Vous venez de parler des privilèges. On a fait croire aux hommes qu'ils avaient des privilèges. Certes, dans le monde est dominé par les hommes. Bon, là, en ce moment, c'est terrible. Avec cette guerre en Ukraine, on voit bien qu'à la tête, ce sont des hommes qu'il y a. Je ne sais pas si nous avions des présidentes de la République de Russie et d'Ukraine, si les choses se passeraient de la même chose. De la même façon, je ne veux pas dire que les femmes sont meilleures que les hommes. Jamais je n'ai tenu ces propos. Mais je veux dire qu'on n'aborde pas du tout la vie de la même façon. On n'aborde pas les choses de la même façon. On ne voit pas le monde de la même façon. Et donc, ce privilège, entre guillemets, est en fait un carcan. C'est un carcan. Les hommes sont dans une armure qui les empêche de s'épanouir selon vraiment ce qu'ils sont.
Oui, parce que enfin, je faisais référence, par exemple, à ce qui se passe en Ukraine. C'est triste quand même.
C'est abominable.
C'est abominable.
C'est plus que triste.
Ce qui est attendu d'un homme, justement. Alors là, on est vraiment dans le cliché du stéréotype. On sort les muscles, les va-t-en-guerre et on va tuer des femmes et des enfants, d'autres humains. On en est encore là en 2022.
Mais c'est affreux. Jamais nous n'aurions pensé qu'il y aurait une guerre en Europe. Bien évidemment. Faut pas se cacher les yeux non plus.
La volonté de puissance.
Il y en a dans d'autres pays, mais là, on a quand même fait l'Union européenne et l'Europe pour éviter que les Européens se mettent sur la gueule. Il faut bien le dire. Et là, c'est vraiment un échec. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Et puis, donc, des hommes à qui l'on demande d'obéir et des hommes qui obéissent et qui, pendant qu'ils font la guerre, ne consacrent pas ce temps à élever leur esprit, à se divertir, à avoir des loisirs. C'est ça, ce carcan dont tu parlais aussi.
Tous ces jeunes hommes là, qui sont dans l'armée russe et qui sont mobilisés, pendant ce temps-là, ils ont abandonné leur famille, ils ont abandonné leurs enfants, ils ont quitté leur métier, ils ne font plus tourner la société puisqu'ils font la guerre. Ils tuent. Ils sont là pour tuer. Mais comment on peut accepter ça? Comment les Nations Unies peuvent encore aujourd'hui laisser faire ça? Enfin, c'est la diplomatie, la négociation qui devrait dès aujourd'hui arrêter ça. C'est pas possible. Quand je dis que je suis en colère, je suis horrifiée. Je suis une femme en colère qui ne comprend plus ce mot, qui ne comprend plus ce monde. Mais, comme vous avez certainement dû le dire, Olivia, dans votre livre, si le monde va mal, c'est bien à cause de ces stéréotypes et de ce qu'on nous impose, de ces relations de genre. C'est à cause de ça. Mais quand on le dit dans des instances un petit peu politiques, on nous rigole au nez, hein.
Moi, je dirais que je vous suis tout à fait. Je dirais que au-delà de la question du genre, en fait, ce qui est très préoccupant dans la société qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est qu'on voit en fait le triomphe de cette logique de domination, qui est à la fois la domination de l'homme sur la femme, mais plus largement de la domination de l'homme sur l'autre homme, de l'empire sur l'État qui a pris son indépendance, sur... Et au-delà de ça, l'anthropocène, c'est-à-dire cette logique de domination de l'homme sur la nature et l'animal, dont on voit aujourd'hui qu'elle nous revient en boomerang et on en arrive à se demander si la planète sera encore habitable dans 50 ans. Et en fait, derrière, il y a toujours la même logique de domination et de toute puissance qui est au départ, effectivement, la définition même du virilisme, de la virilité, c'est dominer et être puissant.
Prendre.
Parce que c'est ce qui est, excusez-moi Monique, c'est ce qui est intéressant dans votre livre justement parce que vous faites un fabuleux bond en arrière.
Merci.
Et on en revient donc à ce mystère de la fécondité de cette femme qui accouche, on ne sait pas pourquoi. L'homme un jour comprend, donc après s'être sédentarisé, que c'est le fait que le taureau monte sur la vache qui, quelques mois plus tard, je schématise, hein, je fais un raccourci pour que les auditeurs et auditrices comprennent, et qu'il naît un enfant. Et donc l'homme comprend que sa fonction virile, donc le fait de posséder un sexe, est à l'origine de la fécondation de la femme. Et c'est à partir de là que tout change.
Oui, alors en fait, on ne peut faire que des spéculations l'origine de la domination masculine. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que cette domination n'était pas universelle et qu'elle était historiquement située et datée. Ce qui est très important parce que si on dit l'homme a toujours dominé la femme partout et tout le temps, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de naturel dans cette domination et qu'effectivement, l'homme est dominant naturellement. En réalité, ce qui est important de montrer, c'est que cette domination n'a pas partout existé, pas toujours, ce qui prouve que cette domination est une construction culturelle. Donc j'ai voulu essayer de comprendre quelle était l'origine, les éléments déclencheurs de cette construction, puisque maintenant on le sait, on a tout à fait une autre vision de la préhistoire aujourd'hui que celle qu'avaient nos parents et nos grands-parents. Et en fait, on sait maintenant qu'autrefois, pendant des dizaines de millénaires même, si vous voulez, le partage du monde entre l'homme et la femme était beaucoup plus égalitaire et les droits et les prérogatives et les devoirs étaient beaucoup mieux partagés, c'est-à-dire qu'il y avait des sociétés matrilinéaires où les biens et le nom se transmettaient par la mère. Vous aviez en Égypte, en Haute-Égypte, des femmes qui pouvaient étudier la médecine. Vous aviez chez les Étrusques et chez les Celtes des femmes guerrières, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que tout à coup le monde se virilise ? Ce que j'ai appelé la virilisation du monde, c'est tout à coup, poum, tout est rabattu du côté du masculin et la femme est minorée. Et donc vous faisiez très justement allusion au fait qu'il y avait eu cette histoire de compréhension des mécanismes de la procréation. C'est très important de rappeler que donc, pendant des dizaines de millénaires, on voyait une femme accoucher seule, donc on pensait qu'elle avait des pouvoirs surnaturels et on n'avait pas fait le lien entre la couple, la fécondation et la procréation. Donc l'homme, il n'avait pas vu le rôle fécondant de son sperme. C'est vraisemblablement au néolithique qu'il commence à observer les animaux et là l'homme comprend le pouvoir fécondant du sperme, comprend son rôle dans la procréation et au lieu de se dire ben voilà, nous sommes deux dans cette histoire, il va ramener toute la procréation à lui, c'est-à-dire l'enfant maintenant lui appartient. Porte son nom, n'appartient plus à la femme, et en fait, la femme est en quelque sorte réduite à un peu un réceptacle ou un vase. D'ailleurs, il y a des expressions qui en disent long qu'on emploie encore comme la petite graine. Mmh. La petite graine, ça veut bien dire que voilà, elle aurait pu pousser là ou ailleurs, que la femme, en fait, n'a fait qu'accueillir la graine et que l'enfant est tout entier dans la graine. Donc, il y a eu toute cette histoire, mais il y a aussi eu, évidemment, la sédentarisation qui a généré aussi la guerre, mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a l'invention des métaux, donc changement pour le cheval. Il y a eu plein de faits qui, dans les premiers millénaires avant notre ère, ont, j'allais dire, conspiré à faire de l'homme le maître de la femme. Mais il faut rappeler sans arrêt que ça n'avait pas toujours été le cas. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Margaret Mead, on n'en a pas parlé, mais Margaret Mead, notre célèbre anthropologue, a montré dans un livre qui s'appelle « Les mœurs et sexualités en Océanie », elle a pris trois peuplades primitives et elle a montré que sur ces trois peuplades, il y en avait une qui était à peu près comme la nôtre, avec domination masculine, l'autre qui était complètement égalitaire et la troisième où il y avait une domination féminine. Donc vous voyez à quel point tout ça, en réalité, toutes ces constructions culturelles, le simple fait qu'elles soient variables d'une époque à l'autre et d'une ère géographique à l'autre, montre qu'elles ne sont pas universelles. Donc c'est ça qu'il faut rappeler.
Monique Lemoine.
Oui, et donc avec ce que vous dites, cela me rappelle que ben, aujourd'hui encore, grâce au colloque que nous faisons à Mixité, nous découvrons d'autres façons d'élever les enfants, d'autres façons d'organiser la famille. Et chez les Fangboulou-Béti, c'est-à-dire au Cameroun, tout un pays, alors je ne vous dirai pas bien exactement les pays dont ça concerne, mais le fait de transmettre les enfants ne se fait pas du tout comme chez nous. Un enfant peut très bien être élevé dans la famille alors du père, c'est comme chez nous, avec transmission du nom, parce qu'on pourra parler aussi du droit. Mais il peut être aussi dans la famille de la mère et élevé par ses oncles et tantes comme si c'était leurs parents. Donc ça veut bien dire, en référence à ce que vous nous avez annoncé tout à l'heure, il n'y a rien de naturel. Mais là où c'est très très important, si on prend un petit peu l'aspect juridique, en France, depuis le Code Napoléon, toujours le nom du père se transmet à ses enfants. Pourquoi ? Comme ça, le père, il est sûr que ce sont bien ses enfants. Et tous nos problèmes familiaux de droit de la famille viennent de cela. C'est-à-dire qu'il y a la peur de l'homme que son spermatozoïde ne soit pas celui qui a fécondé l'enfant qu'il va devoir élever. Et là, toutes les histoires de filiation qui implique ensuite des tas de problèmes dans les familles, d'héritage. On parlait d'enfants naturels. Bon, maintenant, c'est terminé. Maintenant, on parle d'enfants nés hors mariage, parce que comme le mariage n'a peut-être plus le succès qu'il avait avant, on peut vivre toute une vie, avoir des enfants sans se marier. Le mariage, c'est un contrat hein, entre deux personnes. Un contrat, ça se fait, et un contrat, ça se défait. Simplement, derrière, il y a toujours cette transmission du nom.
En plus, Olivia Gazalet, vous faites donc une nuance entre patriarcat, ce pouvoir de l'homme en tant que père, en tant que frère, pour diriger le foyer, pour diriger la famille, et de viriarcat. Donc que vous préférez ce terme justement parce que dans votre ouvrage vous interrogez non pas cet homme qui détient le pouvoir au sein de la famille mais l'essence même de, alors puisque voilà, on a beaucoup parlé en fait de l'essence, là on est bien d'accord enfin à ce moment de l'émission que la nature, le rôle de genre de l'homme ou le rôle de genre de la femme n'est pas essentiel, une femme n'est pas destinée ou un homme, enfin un humain n'est pas destiné à avoir un rôle en fonction justement de son anatomie. C'est là, on est bien d'accord.
Si, à part la maternité.
Évidemment, la maternité, puis cette possibilité. Mais par rapport au rôle dont on a parlé tout à l'heure, donc l'injonction à être courageux pour un homme, une fille, ça pleure, un homme, ça montre pas ses sentiments, etc. Toutes ces injonctions ne sont pas de l'ordre de la nature, de l'essence des individus, des sexes, mais seraient des constructions sociales. Et vous faites une nuance justement dans votre ouvrage entre patriarcat et viriarcat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement pourquoi cette nuance?
Oui, alors là, il y a deux choses dans votre question.
Oui,
alors,
je suis désolée.
Non, pas du tout, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je vais commencer par cette question de la nature et de la construction sociale, parce que ça, je trouve ça très intéressant. Et ça a des effets dans la société et dans l'économie qui sont extrêmement concrets. Quand on dit, par exemple, que la femme est naturellement douce, bienveillante, empathique, patiente, gentille. Et d'abord, d'une part, ça l'assigne à la maternité. Parfois, ça l'enferme dans la maternité. Vous avez bien raison de dire que nous sommes équipés pour porter un enfant et pas les hommes, jusqu'à preuve du contraire. Mais ça ne doit pas pour autant nous enfermer et nous assigner. Il y a des tas de femmes qui ne font le choix de ne pas avoir d'enfants. Il y a aussi celles qui ne peuvent pas en avoir. Donc, en fait, c'est une définition assez limitante.
Monique Lemoine.
Moi, j'ai pas dit que si les femmes étaient à la tête des pays, il y aurait pas de guerre. J'ai dit que les femmes avaient des visions différentes et que je les considérais pas meilleures que les hommes. C'est déjà ça. Mais comme justement, elles n'ont pas le pouvoir. Comment peut-on savoir comment elles se comporteraient? C'est bien ça.
Il y a eu quelques femmes qui ont eu le pouvoir,
oui,
je te rappelle Margaret Thatcher.
Oui, non, mais d'accord, et Golda Meir, bien sûr. Oui. Mais aujourd'hui, il y a quelques femmes présidentes ou premières ministres, il faut les suivre. Et elles ne gouvernent pas leur pays comme la plupart des pays gouvernés par des hommes. Mais je voulais revenir sur un peu l'écoféminisme dont tu parles. Les solutions, on les a. Sont en face de nous, les jeunes qui aujourd'hui font la grève derrière le mouvement lancé par Greta Thunberg. Ils ont des choses à dire, simplement nos jeunes, la plupart, on le sait, 80% ils votent pas, donc ils peuvent pas changer la société. Pour l'instant, ils en sont comme ont fait les femmes avant d'avoir le droit de vote. Alors qu'eux, ils l'ont. Mais les femmes ont fait des actions. Les suffragettes ont fait plein d'actions, se sont enchaînées, se sont jetées partout dans des émeutes, ont fait la grève de la faim. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils contestent. Ils font la grève de l'école alors qu'ils voudraient bien aller à l'école. Mais eux, ils savent déjà. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Et ils le disent. Simplement, ils n'ont pas le pouvoir. Alors nous, on est des vieux croutons, bien évidemment. Moi, je suis conseillère municipale, j'ai été adjointe. Bon, j'ai fait des choses, mais c'est sûr qu'on ne m'a pas vraiment bien écoutée, surtout quand je commençais à parler de féminisme et d'égalité et de budget genré. Mais si on leur donne la parole aux jeunes, eux, ils ont envie. Et eux, ils veulent qu'on change les choses. Et ils nous donnent les solutions. Alors on leur donne la parole.
Voilà. Et donc on donne la parole à Sacha Leclerc, vice-présidente d'Ocampus.
Merci beaucoup. Pour venir sur tout ce que vous disiez sur la construction sociale, nous, en tant qu'étudiants et étudiantes, on est totalement d'accord sur le fait que, notamment dans nos filières, on voit notamment même à l'Université d'Orléans qu'il y a vraiment des différences. Par exemple, on voit que toutes les filières scientifiques sont principalement mises présente par les hommes, et que les femmes ont toujours cette habitude, cette construction sociale qui va faire qu'elles vont se dire qu'elles sont moins capables, qu'elles vont être moins présentes, qu'il y a beaucoup plus d'abandon et qu'elles vont aller moins dedans. Par exemple, personnellement, je suis en master de métier de l'accompagnement politique, qui est considéré comme un master très masculin, alors que totalement la politique sont des problématiques, sont des thématiques sur lesquelles les femmes doivent prendre la parole et doivent totalement se sentir centrales dessus. Donc tout ce que vous disiez sur la construction sociale, c'est important que, bah, comme vous dites, les jeunes doivent prendre en main là-dessus, et surtout ça vient par la sensibilisation, des discussions, des paroles, libérer la parole dessus au plus jeune âge en fait. Enfin, on voit que petit à petit, notamment tout ce qui est discussion sur les discriminations sexistes, sur le sexisme, sur la place de la femme, que ce soit au sein des relations, que ce soit au sein de la société, c'est des discussions qui sont très peu faites au sein de la jeunesse, qui sont faites à partir souvent de l'université, et c'est très tard, parce que certaines personnes ont une éducation qui fait que au fur et à mesure, elles ont intériorisé des comportements qui ne sont pas des comportements égalitaires, qui sont des comportements qui font qu'il y a une domination de l'homme sur la femme, qui sont des comportements à proscrire et à travailler beaucoup plus en amont. Donc il y a vraiment un besoin de travailler là-dessus, de chercher à comprendre comment on fait dès le plus jeune âge pour petit à petit, avec des thématiques de plus en plus larges, de plus en plus pertinentes, notamment sur la libération aussi de tout ce qui est sexualité et tout, de comprendre que dès le plus jeune âge, les étudiants et étudiantes, les jeunes, même les enfants sont capables de comprendre ces problématiques et ont besoin de les comprendre pour que petit à petit, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils puissent s'accaparer toutes ces thématiques-là et grandir dans un monde qui voudrait plus égalitaire, parce qu'on sait que même s'il y a une domination des hommes et des femmes, enfin des hommes sur les femmes, on sait que les étudiants et étudiantes maintenant se battent pour ça, et que ça soit des hommes, des femmes ou des personnes non binaires, ils vont pour autant être tout le temps présentes au sein des manifestations, au sein des paroles qui vont être libérées pour parler de tout ça. Qu'importe qui on est, qu'importe quel genre on a toutes et tous la volonté de défendre ces positions-là. Et je vais laisser Jonathan compléter là-dessus. Merci beaucoup.
C'est très juste comme intervention.
Je suis tout à fait d'accord de toute façon avec ce que Sacha a dit. Pour ma part, personnellement, j'ai vu tous ces changements, enfin, mon engagement fort à l'université, au final, c'est l'université qui m'a beaucoup formé sur ces questions-là, parce qu'au final, quand on est au lycée, au collège, en primaire, on nous en parle pas. Alors, on a des cours d'éducation sexuelle qui viennent de dire comment on met une capote pour pas avoir de bébé ou d'IST, mais on n'aura rien qui va venir nous expliquer les genres. Et quand on regarde tout ce qui est publicité à la télé, etc., en fait, tout ce que vous disiez sur les stéréotypes, on les retrouve complètement. Et même pour être fortement engagé à l'université, sur les questions de virilisme, etc., on le voit aussi en conseil officiel de l'université, en commission. Et quelque chose quand même d'assez surprenant, si on regarde aujourd'hui qui a le pouvoir au sein de l'université, il y a un président, il y a 11 composantes, et sur les 11 composantes, il y a une femme qui est directrice et une autre qui est administratrice provisoire pendant quelques mois, et ce sera peut-être encore un homme derrière. Et quelque chose qui peut choquer, mine de rien, aussi au débat hier qu'il y a eu organisé par notamment le M1 droit public sur les présidentielles, à la tribune, au final, représentant de partis politiques, il y avait aussi que des hommes. C'est dommage. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur l'éducation en partant du plus jeune âge, car si on se contente de rester à l'université, au final, c'est ce que disait Sacha, on va juste reproduire ce qu'on va apprendre pendant toute notre jeunesse, etc. Et quelque chose quand même d'assez surprenant, il me semble que c'est en 2015 que normalement les établissements d'enseignement supérieur devaient avoir l'obligation de mettre en place des cellules de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L'université d'Orléans, il a fallu 2018-2019 pour qu'elle soit mise en place. Un travail avec les étudiants, notamment, qui ont aussi beaucoup poussé à ce projet. Et si on prend le Crous d'Orléans-Tours, en fait, elle date d'il y a quelques mois. Parce que qui a demandé une commission de lutte contre les discriminations avec une possibilité de saisir officiellement des personnels administratifs pour des questions de discrimination ou quoi, bah, il a fallu que ce soit les étudiants qui impulsent ça et qui se sont heurtés à une année et demie quand même de bureaucratie pour arriver à obtenir quelque chose qui permet aussi de libérer la parole et de changer ce qu'il se passe aujourd'hui.
Très intéressant. Mmh.
Oui, par rapport à ce que vient de dire Jonathan, ça me fait penser que derrière tout ça, donc, ce sont des politiques publiques. Hein. Et les politiques publiques, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a à peu près 3 semaines, au planning familial, nous recevions 2 ministres. Madame Elisabeth Moreno, qui est ministre de l'égalité des femmes et des hommes, et Joël Gauthier, qui était secrétaire d'État, et depuis, il est devenu ministre aussi des territoires. Et donc, on était comme ici, là, alors avec tout le staff, hein, là, on se tenait très, très bien, très droit. Et Madame Moreno fait son speech. Et donc, à un moment donné, je lui dis, mais vous savez, Madame la ministre, on pourra se retrouver ici même dans 40 ans pour discuter des mêmes choses, des mêmes inégalités, si vous n'allez pas voir votre collègue, Monsieur Blanquer, pour lui dire qu'il faut absolument que... À l'école, dès le plus jeune âge, il faut que l'on parle aux enfants et qu'on les écoute, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'écoféminisme, parce que les enfants, en primaire, ils ne sont pas forcément sexistes, ils veulent l'égalité, ils veulent bien construire une société qui respecte les animaux, qui respecte la nature, qui respecte l'humain, bien évidemment. Et c'est après que tout ce que vous venez de dire... Tous ces stéréotypes, un garçon, il a envie d'être un garçon, donc il fait comme on lui dit d'être, il va se battre, il va pas vouloir après aller avec les filles pour jouer, parce que non. Hein. Et les filles, elles vont rester aussi dans leur coin de la cour, parce que les espaces ne sont pas égalitaires dès la cour du primaire. Et on peut continuer... Avec les noms, on est dans une école maternelle. Les noms, moi, Fleury-les-Aubrais, quand j'étais adjointe, j'ai voulu faire changer les noms. On m'a dit, mais non, Monique, ça a toujours été comme ça. Une école maternelle, c'est une école maternelle. Bon, pourquoi pas une école enfantine ? Ce serait quand même plus besoin de maternelle. De la même façon, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge, enfin, même encore un peu moins, j'avais des cours d'éducation ménagère. Mais il n'y avait pas de garçons. Il n'y avait pas de garçons. D'abord, on n'était pas mixte à l'époque. C'était terrible. Hein, on était qu'entre filles. Et les garçons, ils étaient qu'entre garçons. Mais c'était bien un signe que c'était les filles à qui on devait apprendre à faire la couture. J'ai fait de la couture. Je me suis piqué les doigts. Je n'étais pas du tout doué pour ça. On apprenait à faire la cuisine. Ça n'a rien donné. On langeait les gamins aussi. On avait des poupards et on était obligés de... Vous vous rendez compte ? C'était quand même redoutable, c'est bien. Cela montre bien que dès l'école, on nous indiquait notre voie.
Laurence Lacroix.
Oui, j'aimerais dire quelque chose. C'est vrai qu'on attend beaucoup, c'est-à-dire on attend qu'on nous dise comment nous comporter, etc. Moi, j'aimerais juste dire quelque chose. On est dans une société où effectivement on baigne dans les stéréotypes, voilà. Mais il me semble que c'est la même chose que pour la parole. C'est-à-dire si vous voulez parler, si vous voulez dire quelque chose, n'attendez pas qu'on vous donne la parole.
Prenez-la.
D'ailleurs,
c'est ce que j'ai envie de dire aux filles. C'est ce que j'ai aussi envie de dire aux garçons. C'est-à-dire, votre vie, elle est entre vos mains. Si vous voulez faire votre vie, prenez-la en main. N'attendez pas qu'on vous la prenne en main. N'attendez pas qu'on vous la guide, qu'on vous l'oriente. Et donc, ce rapport au pouvoir, c'est la même chose. Si les femmes veulent le pouvoir, qu'elles le prennent. Je ne dis pas que ça sera simple. Mais n'attendez pas à ce qu'on vous déplie le tapis rouge. De la même manière, ne demandez pas trop aux hommes. Voilà. Parce qu'effectivement, les hommes sont au pouvoir. N'attendez pas trop que ce soit eux qui changent le social. Donc, chacun, je pense, a à faire sa part. Mais le plus important, c'est que chacun vive la vie qu'il a envie de vivre et soit actif dans sa vie et non pas passif. Il ne faut jamais être victime. Voilà.
Oui, n'attendez pas trop des hommes. Personnellement, moi, je suis assez fatigué de du constat que vous faites sur notre monde, je pense que on l'a vu avec la crise sanitaire, hein. Donc un conseil de défense, des hommes qui nous disent ce qu'il faut faire, des scientifiques hommes, comme le disait Sacha justement, qui vont nous expliquer c'est quoi la nature, etc., avec ce ton très paternaliste et condescendant, et puis des normes et des masques, etc., et des privations de liberté. C'est assez fatigant. Celles qui travaillaient pour de bon, qui demandaient, qui réclamaient des droits dès janvier 2020, qui étaient dans la rue parce que justement, elles prévoyaient qu'il manquait de lits, qu'il manquait de personnel et qu'en fait, on n'aurait pas eu de confinement s'il y avait eu suffisamment de lits et de personnel pour accueillir les personnes malades, hein, parce que ça a été ça en fait, le confinement. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de moyens, que des hommes avaient supprimés, hein, etc., etc. Donc, je suis d'accord avec toi que les hommes comme les femmes doivent prendre la parole. Je préfère qu'on, quand même, on va laisser la parole aux femmes parce que c'est une priorité et on va profiter. Regarde comment je suis habile, Laurence, parce que je sais que tu dois rejoindre tes élèves. On va profiter d'une pause musicale pour justement te remercier d'être passé.
Bah, merci à vous, merci beaucoup.
Parlons philo sur Radio Campus 88.3. Voilà. Philomania également qui organise de nombreux débats avec la jeunesse.
Avec la jeunesse, avec la société civile où les gens ont la parole, les hommes et les femmes.
Et comme ça, vous allez pouvoir venir dans le public, là, on va pouvoir échanger. N'hésitez pas, hein, c'est Radio Campus 88.3. On est là pour ça, il faut en profiter parce qu'après, dans une heure, il y aura d'autres programmes. Mais là, vous allez pouvoir vous exprimer sur ce sujet. On vous attend le temps d'une pause musicale et le temps pour moi également de remercier Viviane Behrer qui est à la technique. We'll be right back. Radio Campus 88.3, comment lutter contre les discriminations sexistes, qu'est-ce que le sexisme, voilà, c'est ce sur quoi nous nous interrogeons depuis une heure maintenant, en compagnie d'Olivia Gazalet, autrice du mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, en compagnie également de Monique Lemoine, présidente de Mixité, du planning familial, et de Jonathan et Sacha, toujours présents avec nous dans le studio de Radio Campus installé au Bouillon, en compagnie de Salomé, bien évidemment, et en compagnie d'une personne du public dont je ne connais ni le nom, ni le prénom, ni la fonction, ni même ce qu'elle va dire. D'ailleurs, je pose mon micro, je vous laisse vous présenter et partager à l'échange. Partager cet échange avec nous.
Donc bonjour à toutes et à tous. Du coup, Claire Lallemand, étudiante en L3 en biologie à l'Université d'Orléans.
Vous souhaitiez réagir par rapport à ce qui s'est dit là depuis une heure?
Oui, je souhaitais réagir parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses qui font écho, notamment à notre éducation, à la place qu'on a à l'université. Et bon, je ne vais pas dire grand-chose de plus, mais effectivement, l'éducation qu'on a aux stéréotypes de genre, notamment à l'école primaire, même au collège, les intimidations qu'on peut avoir en étant une femme à la période de l'adolescence, qui au final paraissent anodines sur le moment parce que ça fait partie d'un quotidien, d'une globalité qu'on vit. Et avec le recul, en grandissant, en s'instruisant, s'éduquant et se déconstruisant, on se rend compte que tout ce qu'on a pu subir comme violence verbale, physique à cette époque-là, ça a des grosses répercussions. Et même en essayant de se déconstruire un maximum sur ces questions-ci, il y a des choses qui restent ancrées, des idées qu'on nous a inculquées pendant ces années-là, d'éducation en primaire, en maternelle et au collège, voire même au lycée des fois, restent complètement ancrées et ont véritablement un impact sur nos vies et sur la déconstruction qu'on voudrait pour notre vie personnelle et pour la société.
Alors, je vais me permettre de rebondir et puis vous allez peut-être pouvoir m'aider, Madame Gazali et Madame Lemoine. Je vais faire référence à un ouvrage de Feyzagen, La discrétion, qui explique comment, à force d'avoir intériorisé l'humiliation qu'elle avait subie, enfin que sa mère avait subie, cette humiliation s'est transformée en colère. Et c'est pour ça que je rebondis sur cette colère dont tu parlais tout à l'heure, Monique. Ces humiliations répétées suscitent une colère trop contenu.
Oui, beaucoup de filles, alors de garçons aussi, hein, mais quand on dit ça, c'est parce que c'est majoritairement les filles qui trinquent. C'est majoritairement les filles qui sont violées, même s'il y a des garçons qui sont violés, et c'est majoritairement les femmes qui sont tuées par leur conjoint, la personne qui dit qu'elle l'aime le plus au monde. Vous ouvrez la République du Centre tous les jours et vous voyez à la page justice tous les jours, un homme qui passe au tribunal, qui passe en cour d'assises si c'est un viol, ou qui passe en correctionnel s'il a tabassé la fille avec qui il vivait. C'est tous les jours. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça encore aujourd'hui, qu'une femme, parce qu'elle est une femme, se fasse taper sur la figure? Bon, c'est inadmissible. Il devrait y avoir une politique publique qui disent que, voilà, on prend des mesures pour que ça ne se produise plus. Mais il faut remonter, comme je disais à Elisabeth Moreno, si c'est pas à l'école, et tu viens de le dire, si c'est pas à l'école qu'on apprend aux enfants à respecter l'autre et à surtout ne pas atteindre à son intégrité physique, ben là, il y a un problème. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que tout cela, vous l'avez dit, hein, ça provoque des sentiments d'infériorité chez les filles. Puis si on a eu un premier mauvais rapport sexuel, si on a été forcé, après, notre relation avec le garçon, avec d'autres garçons, je veux dire, ça va pas être top. Si on a été moqué parce qu'on était trop ceci, trop cela, je parle même pas de la couleur de la peau, hein, parce que là, on n'y peut rien. Si on est trop grosse, bon, voilà, on peut l'assumer. La couleur de sa peau, on la changera jamais. Elle est noire, elle est jaune, elle est marron, voilà. C'est aussi une grosse source de discrimination, la couleur de la peau. Après, si l'école... Alors, ça ne veut pas dire que nous, les profs, hein, on doive apprendre aux gens comment se comporter. Mais moi, qui ai fait 45 ans d'éducation nationale, je peux vous dire qu'en dehors de mes cours de droit et d'économie, y avait aussi une relation à la vie. C'est-à-dire que tout ce qui se passait dans la classe, c'était notre vie. On passe quand même beaucoup de temps, les jeunes, vous passez le plus clair de votre temps à l'école. Bon, maintenant, vous êtes à la fac. Mais c'est quand même là où vous voyez bien comment le prof se comporte avec les garçons et avec les filles. Alors, en amphi à 250, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais vos années lycée, vous étiez 25, 35, vous voyez bien les relations qu'il y avait entre le prof et avec les garçons et avec les filles. C'était pas les mêmes. Alors, les profs, ils sont comme la société. Ils sont pas pires, mais ils sont pas meilleurs non plus. Et ils ont pas forcément été formés à ces questions d'égalité. Et donc, ils transmettent, ils se comportent comme eux-mêmes, on s'est comporté avec eux. Voilà. Et on va plus écouter les garçons parce qu'ils vont faire le bordel dans la classe. Et si on veut la paix, c'est à eux qu'on donne la parole. Je pense que vous me contredirez pas là-dessus. Alors, ça a changé. Bon, moi, au lycée Voltaire, j'avais une classe totalement mixte et en couleur et en sexe. Et ça a été vraiment une bonne école pour moi. J'ai jamais voulu changer. Parce que au moins, là, j'avais un terrain où j'avais l'impression que je pouvais faire quelque chose. Que au moins mes élèves, les noirs, les blancs, les asiatiques, tout ça, ils voyaient que on devait vivre ensemble, que les garçons et les filles, on devait vivre ensemble. Et quand il y avait un noir qui avait une mauvaise note, qui venait me dire « Madame, vous êtes raciste », je lui disais « Ah non, là c'est pas possible. Tu viens avec ta copie et on va voir ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de pas bon. » Et les garçons et les filles, pareil, quand ils se fichaient sur la figure, on s'expliquait. Mais il était hors de question de dire qu'il y en avait qui étaient supérieurs aux autres. Non. Et donc, il ne faut pas demander aux profs de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais il faut qu'il y ait une culture de l'égalité. Et ça évitera cette culture du viol. Parce que si, dès le plus jeune âge, on n'a pas appris que je n'ai pas le droit de mettre ma main sur tes fesses, ni sur tes seins, ni de te demander un baiser si tu ne veux pas me le donner... Mais pareil pour les garçons, c'est-à-dire qu'un garçon n'a pas à se faire manipuler, puisque les garçons, ils sont aussi doux que les filles. Il n'y a rien de génétique. Il y a des muscles, ça c'est vrai, il y a des muscles qui sont différents, et une ossature qui peut être différente. Mais ça n'influe pas sur notre tête. Ce n'est pas avec son phallus ou avec ses ovaires qu'on réfléchit. On réfléchit avec sa tête, voilà, et avec son cœur. Et ça peut nous amener sur... tu as parlé un petit peu de non-binaire tout à l'heure, Sacha. C'est pareil, l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que ça peut faire à la société que je tombe amoureuse de ma voisine ou que je tombe amoureux de mon voisin ? C'est une personnalité qui compte. Après, je me rends compte qu'il a un sexe d'homme, tant mieux. Elle a un sexe de fille, tant mieux aussi. Et alors, on va me discriminer parce que je vais coucher avec ma voisine de droite ou ma voisine de gauche et pas avec mon voisin, pas avec Daniel. Et on va pas me donner
un
les mêmes
d'intimité.
Droits.
Un peu d'intimité. Pour moi, c'est très sérieux, l'amour, Monique.
je parlais que de sexe, là. Je ne parlais pas d'amour. C'est deux choses différentes, à mon avis. Il y a le sexe et il y a l'amour. Mais voilà, rappelez-vous quand même que les mêmes droits n'ont pas été attribués aux homosexuels jusqu'en 2013 pour le mariage pour toutes et pour tous. C'est quand même redoutable. Et dans combien de pays encore aujourd'hui l'homosexualité est pénalement condamnée, on va en prison ou bien hop, on se fait décapiter. Voyez bien que c'est parce qu'il n'y a pas cette culture de l'égalité que notre monde va mal.
Claire.
Oui, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, qui est très intéressant. Et ça fait référence aussi à tout ce qui est intersectionnalité, convergence des luttes. Pour une femme qui va avoir une couleur de peau, qui va avoir une orientation différente de la normalité, entre gros guillemets bien sûr, ce sera beaucoup plus long et dur pour elle de se faire considérer dans la société en tant que femme, comme on l'entend dans la société aussi, plutôt qu'une femme qui répond aux standards qu'on nous impose. Et justement, je pense que la déconstruction qu'on peut avoir et la nouvelle génération dans laquelle j'ai beaucoup d'espoir, qui permettront de fracasser un peu ces stéréotypes, permettront à beaucoup plus de femmes, de personnes non binaires et même d'hommes de se sentir beaucoup plus inclus dans cette société.
Mmh. Oui, et les garçons. Voilà, qui vont être de couleur et qui vont peut-être être homosexuels ou d'une religion, parce qu'on peut aussi mettre la religion. On peut mettre tous les pénalement, tous les signes de discrimination. C'est exactement la même chose. Donc, il faut absolument... oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. À l'école, cette culture de l'égalité, en fait, il ne s'agit pas d'imposer. Moi, je n'ai jamais rien imposé à mes élèves et à mes étudiants. Il s'agit de montrer que ça existe. Or, pour l'instant, qu'est-ce qu'on leur montre ? Une société de concurrence, une société de domination. Eh bien, je veux dire, on n'a pas le choix, on y va. Si on ne montre pas qu'il peut y avoir une société de l'égalité, et là, on n'a pas le choix. Or, où est-ce qu'on la trouve, cette société d'égalité ? Il y a des cours qui nous instruisent pour nous montrer ça.